en temps universel. Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, le journal. Et déjà, on reparle de l'élection du pape Léon XIV. Hier, avec Véronique Guémard, qu'on retrouvera à Rome. Elle était place Saint-Pierre hier soir. L'élection du pape Léon XIV qui est, je vous le rappelle, au cœur de notre édition spéciale à partir de 6h10, temps universel. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Le football est une finale 100% anglaise pour la Ligue Europa.
Tottenham-Manchester United, ce sera le 21 mai à Bilbao. Les Spurs vainqueurs des Norvégiens de Bodø Glimt 2-0 en demi-finale retour, pendant que les Red Devils d'André Onana s'imposaient eux 4-1 sur l'Athletic Bilbao.
En République démocratique du Congo, le FC Lupopo s'adjuge le derby de Lubumbashi.
Confrontation disputée dans le cadre de la 5e journée des play-offs du championnat national. Et les jaunes et bleus s'imposent 1-0 sur le TP Mazembe, pourtant dans son stade de Kamalondo. La malédiction se poursuit donc pour les Corbeaux, qui n'ont décroché qu'une victoire en 9 matchs face à leur rival, le FC Saint-Éloi Lupopo, qui de son côté savoure cette réussite nouvelle. Pascal Mangala.
Les supporters de Lupopo tout en liesse au stade Mazembe, cette victoire a un goût particulier. C'est la première dans ce stade de Kamalondo depuis sa construction en 2013. De quoi rendre fier le coach français de Lupopo, Luc Emaï.
On a fait le job et de belle manière. Et je suis très heureux, bien sûr, pour les fanatiques de Lupopo qui sont extraordinaires. Maintenant, on doit continuer, certainement pas s'enflammer.
Pour l'attaquant camerounais Maxwell Djoumekou, arrivé chez les Jaunes et Bleus depuis 2 saisons, ce succès signifie beaucoup.
Nous respectons bien cet adversaire, mais c'est pour ça que nous avons eu une motivation de plus. Avec les encouragements du président et du staff technique, on a eu une victoire. Donc, nous, on dit merci.
À l'opposé, les fans de Mazembe ont mis du temps pour vider les gradins de leur stade. Question de digérer leur déception, Lupopo est redevenu leur bête noire. Certains évoquent l'absence de leur président Moïse Katumbi en exil politique depuis plusieurs mois comme la cause de ce qu'il qualifie de contre-performance dans le plus grand derby de la ville. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Et Lupopo qui profite de cette victoire pour recoller au classement avec 9 points désormais après 5 journées pour Mazembe et une de moins pour Lupopo.
Le Chan également à la une avec un match retour des éliminatoires additionnels.
L'Algérie et la Gambie face à face pour l'avant-dernier billet vers l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie cet été. Algériens et Gambiens qui se sont neutralisés 0-0 lors du match aller la semaine dernière et qui se retrouveront à 18h temps universel au stade du 19 mai 56 d'Annaba.
La CAN U20 en Égypte, à présent le Sénégal à la RDC au rendez-vous des quarts de finale.
Les Congolais battus 2-0 par le Sénégal, mais c'est sans conséquence pour les jeunes Léopards qui verront les quarts de finale en qualité de meilleur troisième. Des Sénégalais qui avaient tout simplement plus envie, reconnaît le sélectionneur des U20 congolais, Guy Boukassa.
C'était un match très difficile, on le savait. Après jouer contre une équipe du Sénégal éliminée avant le début du match et nous avec des jeunes qui savaient qu'ils avaient déjà un pied en quart de finale, c'était pas évident d'avoir la même envie qu'on a eue lors de précédents matchs. C'est là que la différence a eu à se faire. On se loupe un peu à l'entame, mais après on concède 2 pénaltys. Je ne blâme pas mes garçons, mais je pense que c'est des leçons apprises. On va se concentrer sur le match des quarts de finale. Et on pourra se préparer dans des bonnes conditions et récupérer déjà ces 3 matchs intenses parce que on a quand même joué contre 3 équipes costauds et on est arrivé sur ce 3e match un peu diminué physiquement. Donc on va devoir bien récupérer pour arriver le 12 en bonne forme et répondre aux attentes de la population.
Guy Boukassa avec Olga Massangou dans ce même groupe. Le C, c'est donc le Ghana qui termine premier après sa victoire 1-0 sur la Centrafrique. Les Ghanéens termine devant les Sénégalais ce vendredi, fin de la phase de groupe, avec 2 rencontres de la poule A. L'Afrique du Sud affronte la Zambie à 18h TU, en même temps que Tanzanie-Égypte.
Et on termine avec le beach soccer, Antoine. Le Sénégal se hisse en demi-finale de la Coupe du Monde.
Les Lions du beach qualifiés en éliminant ce jeudi l'Italie, vice-championne du monde en titre, score final 4-3, à 2 secondes de la fin de la prolongation. C'est Mamour Diagne qui a inscrit le but victorieux pour les Lions. Sénégal-Biélorussie, première demi-finale de la Coupe du Monde de beach soccer aux Seychelles. Ce sera samedi à 14h, temps universel. L'autre demi-finale opposera, elle, le Portugal au Brésil.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. C'était donc hier, en fin d'après-midi, sur la place Saint-Pierre, à Rome, au Vatican. La fumée blanche après seulement un peu plus de 24 heures de conclave et l'apparition de Léon XIV, premier pape nord-américain, né aux États-Unis et péruvien d'adoption, une première aux accents de continuité. Au vu de sa proximité, pas seulement géographique, avec le défunt pape François, la fin du suspense sur un autre continent. Les fidèles africains espéraient voir l'élection d'un tout premier pape africain. Alors comment réagit-on ce matin, notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays catholiques au monde? L'historien Isidore Ndaiwel est une grande figure de la communauté catholique congolaise, coordonnateur du CLC, le Comité laïque de coordination. Il est aussi très proche de Monseigneur Fridolin Mbongo, cardinal archevêque de Kinshasa, que certains imaginaient devenir pape. Isidore Ndaiwel est notre grand invité Afrique ce matin au téléphone de Christophe Boisbouvier.
Isidore Ndaiwel, bonjour.
Bonjour.
Le nouveau pape a été élu en 24 heures. Est-ce que vous avez été surpris ?
J'avoue, oui, j'étais surpris parce que on nous annonçait qu'il y aurait des discussions, qu'il y avait plusieurs tendances et on se serait attendu à ce que ça prenne un peu plus de temps. Mais là, nous sommes dans une surprise et une bonne surprise qui démontre qu'il y a une très grande maturité au niveau de l'Église et de la gestion et au plus haut niveau s'agissant de l'élection du pape.
Quelle est votre première réaction après les premiers mots de Léon XIV ?
Eh bien, j'avoue que c'est une grande joie, une joie de fin de deuil en fait. Le deuil de François et l'accueil d'un nouveau pape. C'est bien qu'on soit quelque peu dérouté par ce changement. Dans tout ce qui s'annonçait, on ne nous avait pas parlé de lui.
Un pape qui se place dans l'héritage de son prédécesseur, François ?
Il se place dans les premiers mots tout à fait dans cet héritage et c'est qu'il nous rassure et nous conforte. Parce que en Afrique, et spécialement à Kinshasa, nous avons beaucoup aimé François qui nous a fait une très grande visite en janvier 2023 et qui nous a laissé des mots très forts et qui correspond tout à fait à notre situation actuelle. Et nous sommes heureux de constater que nous sommes vraiment dans cette continuité.
Alors visiblement, ce nouveau pape est aussi un théologien.
Dans ses premières paroles, ce qui m'a frappé, c'est surtout la première parole, c'est l'insistance sur la paix. Sur la paix, spécialement en cette période où dans le monde entier, nous courons derrière la paix. Et donc ce mot qui tombe bien le 8 mai est quelque chose qui me paraît très fort.
Et dans cette première exhortation, Léon XIV a appelé à construire des ponts à travers le dialogue.
Tout à fait, et cette paix n'est possible que dans la construction des ponts. J'avais l'impression d'écouter François.
Et donc vous pensez que le nouveau pape sera attaché au dialogue interreligieux ?
Tout à fait, au dialogue interreligieux, mais aussi au dialogue tout court, parce que tout ne se déroule pas dans le contexte religieux, dans la problématique de cette époque que nous traversons.
Alors ce pape vient d'Amérique, est-ce que vous n'êtes pas déçu qu'il ne vienne pas d'Afrique ?
Pas spécialement, parce que pour nous en Afrique, lorsqu'on parle du pape, il n'est pas vraiment question de nationalité. Nous sommes d'ailleurs étonnés de voir qu'ailleurs on en parle beaucoup. Pour nous, le Saint-Père est un père, et un père, on l'accepte. On l'accueille, qu'il soit barbu ou pas, mais c'est un père. Et donc là, il nous est donné de passer d'une espérance à une autre avec ce nouveau pape, qu'il provienne de l'Amérique. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait des États-Unis parce qu'on nous dit qu'il est aussi originaire du Pérou. Et donc, on se retrouve là aussi à nouveau en Amérique latine. Donc, peu importe ses origines, nous avons accueilli avec beaucoup de joie Jean-Paul II, sans trop nous poser des questions sur le fait qu'il soit polonais ou pas, François de même, qu'il soit argentin ou pas, il en est de même pour ce nouveau pape Léon XIV qui nous vient des Amériques, c'est une bonne chose.
Mais vu la vitalité des catholiques en Afrique, est-ce qu'il n'était pas temps que l'Église se donne un pape africain ?
Mais nous avons du temps. Il y aura, comme déjà dans le passé, il y aura des nouveaux papes africains. Nous sommes sûrs que cela se fera dans l'avenir, mais nous ne sommes pas spécialement pressés, ça ne devait pas être nécessairement maintenant, ça aurait pu l'être, mais que cela ne l'ait pas été, ce n'est pas grave, c'est très bien aussi, parce que nous savons que le pape qui nous est donné est un pape qui fera certainement bien ce qui doit l'être.
Mais vous qui êtes très proche de Mgr Fridolin Ambongo, est-ce que vous n'avez pas espéré que ce serait lui ?
Mais c'était normal que je puisse espérer cela, sans non plus me faire trop d'illusions en me disant que ça peut être lui comme ça peut ne pas être lui. S'il l'avait été, ça aurait été très bien. Mais s'il ne l'a pas été, c'est très bien aussi. Donc nous, en Afrique, nous n'en faisons pas un problème. Nous accueillons le père qui nous a été donné et qui est donc maintenant Léon XIV.
Professeur Isidore Ndaïwel, je vous remercie.
Isidore Ndaïwel, historien et coordonnateur en RDC du CLC, le comité laïque de coordination, le grand invité Afrique de Christophe Boisbouvier que vous retrouvez sur RFI.fr et notre édition spéciale au lendemain de l'élection du pape Léon XIV qui commence dans quelques minutes à 6h10, temps universel. Et un œil comme chaque matin de la semaine sur l'actualité des matières premières. On parle du marché du riz aujourd'hui et d'un scénario qui se confirme. Après des mois de restrictions, le retour mi-octobre des exportations indiennes a fait considérablement baisser les prix. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Ceux qui pariaient en début d'année sur une baisse qui allait se poursuivre ont eu raison.
Effectivement, la baisse n'a pas cessé depuis mi-octobre. Le marché s'est effondré un peu plus en avril après l'annonce par New Delhi de la levée des dernières restrictions sur le riz brisé. Globalement, les prix ont baissé de plus d'un tiers par rapport à leur sommet de 2024. La première explication, c'est que l'Inde est partie pour exporter autant qu'il y a 2 ans, une année record. Les dernières prévisions font état de 23 millions de tonnes, voire 24, qui pourraient être exportées cette année. L'autre facteur qui explique ces prix bas, c'est le niveau très élevé des stocks qui rassure les acheteurs et qui contribue à apaiser le marché. Rien qu'en Inde, les stocks de riz dans les entrepôts gouvernementaux s'élevaient à plus de 63 millions de tonnes au 1er avril. C'est près de 5 fois l'objectif que s'était fixé le gouvernement indien.
Et Marie-Pierre, à ce sujet, cette baisse des prix a-t-elle relancé les achats ?
Alors c'est vrai qu'en début d'année, de nombreux importateurs hésitaient à passer commande, même après une première baisse des prix. Mais la plupart ont finalement recommencé à acheter. Parmi eux, on trouve des pays africains, Sénégal, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, mais aussi les Philippines. Ces achats expliquent d'ailleurs en partie certainement la stabilisation des prix. Ils ont arrêté de baisser depuis fin avril environ en Inde, au Vietnam et au Pakistan. Et on a même assisté à un léger affermissement des prix en Thaïlande.
Sans pour autant qu'il y ait une remontée des cours en vue.
Effectivement, les analystes n'attendent pas de véritable rebond dans les prochains mois, car fondamentalement, la production mondiale s'annonce bonne et le marché a intégré que l'Indonésie, qui avait acheté 4 millions de tonnes l'année dernière, serait beaucoup moins demandeuse cette année, ce qui augmente un peu plus l'offre mondiale déjà excédentaire. Évidemment, ces prix bas sont une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais pas forcément pour les producteurs asiatiques et pas non plus pour les riziculteurs africains. Car quand le riz importé sur le continent est si compétitif, ils ont plus de mal à écouler leur volume sur les marchés des grandes villes et cela les incite moins à planter l'année suivante.
Marie-Pierre Olfan pour les matières premières, merci beaucoup.
RFI Matin.
Bientôt 6h, en temps universel, dans les dessous de l'Infox, ce matin, l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan et l'inquiétude grandissante de la communauté internationale. Les deux voisins se sont mutuellement accusés hier d'attaques de drones. Les bombardements de part et d'autre de la frontière ont fait au moins 48 morts, quasiment tous civils. Et pour ne rien arranger, ces affrontements les plus graves depuis 2 décennies s'accompagnent d'une véritable guerre de l'info. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour.
Sur les réseaux sociaux, des comptes pro-indiens et pro-pakistanais s'affrontent à coups de fausses informations, une bataille numérique qui a pris le dessus sur les faits, Grégory.
Oui, si vous cherchez à vous informer sur la situation en cours sur les réseaux sociaux, vous allez forcément tomber sur des fausses informations. C'est simple, quand on tape Inde ou Pakistan sur X, Facebook ou TikTok, les premières images qui sortent sont fausses ou sorties de leur contexte. L'un des exemples le plus marquant, c'est une vidéo vue plusieurs dizaines de millions de fois. On y voit un canon anti-aérien au sol en train d'essayer d'abattre des avions de chasse. La légende parle d'un avion de combat pakistanais Chengdu JF-17 prétendument abattu par la défense solaire indienne.
Sauf que ces images ne sont pas réelles.
Eh bien non, vérification faite, cet extrait est issu d'Arma 3, un jeu vidéo de simulation militaire ultra réaliste, régulièrement détourné pour partager de fausses images en temps de guerre. D'autres extraits de ce même jeu sont partagés par des comptes pro-pakistanais pour illustrer à tort la destruction d'un rafale de l'armée de l'air indienne dans le ciel pakistanais. Pour se rendre compte de la supercherie, il faut observer attentivement les fumées, les flammes et les explosions, des éléments difficiles à reproduire et qui ne collent vraiment pas avec la réalité.
Et à cela s'ajoutent aussi les images sorties de leur contexte.
Oui, alors que nous sommes en plein brouillard de la guerre et que les documents authentiques se font rares, le besoin de mettre des images sur ce qu'il se passe sur le terrain pousse des utilisateurs à recycler de vieilles images. Raison pour laquelle des vidéos filmées dans la bande de Gaza, au Yémen ou au Liban sont diffusées en masse pour illustrer à tort la situation en cours entre l'Inde et le Pakistan.
Sans oublier aussi les images générées par intelligence artificielle.
Oui, une vidéo montrant la carcasse d'un avion de chasse soulevé par un hélicoptère et un cliché satellite censé montrer des rafales indiens ont fait le tour des réseaux sociaux en milieu de semaine. En réalité, pourtant, ces images ont été générées par une intelligence artificielle. À noter aussi que sous des documents authentiques, certains comptes de propagande sèment le trouble en affirmant à tort qu'elles auraient été produites par une IA.
Une désinformation massive donc est particulièrement nocive.
Extrêmement nocive, oui d'abord, car toutes ces fausses publications invisibilisent les quelques vraies images de ce conflit. L'analyse des commentaires montre que ce flot continu d'infox altère les perceptions et radicalise les esprits. Cette bataille numérique entre l'Inde et le Pakistan est un énième exemple que chaque guerre sur le terrain s'accompagne aujourd'hui d'une intense guerre numérique. Chaque camp tente d'imposer sa mise en récit à coups d'infox, le tout au détriment de l'information fiable et vérifiée.
Grégory Genevrier pour les dessous de l'infox, merci beaucoup. Et l'info fiable et vérifiée, vous la retrouvez bien sûr sur notre site www.rfi.fr. Sur la radio du Monde, l'info continue, le journal dans 45 secondes. À tout de suite.
RFI à Seychelles-Anse, 102.8 FM.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Depuis plus d'une décennie, cette MC porte le flambeau du hip-hop sud-africain. Jürgen Blackrock est dans BPM La Rencontre.
I'm into secret codes, Major Tom, back to ground control. Could be a holographic globe, silent planet that turns slow.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.